Mémoire d'Outre-Tombe de François-René de Chateaubriand, deuxième partie, livre 14e. Année de ma vie, 1802 et 1803. Château, Madame de Custine, Monsieur de Saint-Martin, Madame d'Oudetot et Saint-Lambert. 2. Voyage dans le Midi de la France, 1802. 3. Année de ma vie, 1802 et 1803. Monsieur de la Harpe, sa mort. 4. Année de ma vie, 1802 et 1803. Entrevue avec Bonaparte. 5. Année de ma vie 1803, je suis nommé premier secrétaire d'ambassade à Rome. 6. Année de ma vie 1803, voyage de Paris aux Alpes de Savoie. 7. Du Mont-Cenis à Rome, Milan et Rome. 8. Palais du cardinal Fesch, mes occupations. Chapitre 1. Paris 1837, revue en décembre 1846. Année de ma vie 1802 et 1803. Château, Madame de Custine, Monsieur de Saint-Martin, Madame d'Oudetot et Saint-Lambert. Ma vie se trouva toute dérangée aussitôt qu'elle cessa d'être à moi. J'avais une foule de connaissances en dehors de ma société habituelle. J'étais appelé dans les châteaux que l'on rétablissait. On se rendait, comme on pouvait, dans ces manoirs, demi-démeublés, demi-meublés, où un vieux fauteuil succédait à un fauteuil neuf. Cependant, quelques-uns de ces manoirs étaient restés intacts, tels que le Marais, échu à Madame de la Briche, excellente femme dont le bonheur n'a jamais pu se débarrasser. Je me souviens que mon immortalité allait rue Saint-Dominique d'Enfer prendre une place pour le Marais dans une méchante voiture de louage, où je rencontrais Madame de Vintimille et Madame de Fezensac. À Champlâtreux, M. Mollet faisait refaire de petites chambres au second étage. Son père, tué révolutionnairement, était remplacé, dans un grand salon délabré, par un tableau dans lequel Mathieu Mollet était représenté, arrêtant une émeute avec son bonnet carré. Tableau qui faisait sentir la différence des temps. Une superbe patte d'oie de tilleul avait été coupée, mais une des trois avenues existait encore dans la magnificence de son vieux ombrage. On l'a mêlée depuis à de nouvelles plantations. Nous en sommes au peuplier. Au retour de l'émigration, il n'y avait si pauvre banni qui ne dessina les tortillons d'un jardin anglais dans les 10 pieds de terre ou de cour qu'il avait retrouvés. Moi-même, n'ai-je pas planté jadis la vallée aux loups? N'y ai-je pas commencé ces mémoires? Ne les ai-je pas continuées dans le parc de Montboissier, dont on essayait alors de raviver l'aspect défiguré par l'abandon? Ne les ai-je pas prolongés dans le parc de Maintenon, rétabli tout à l'heure, proie nouvelle pour la démocratie qui revient? Les châteaux brûlés en 1789 auraient dû avertir le reste des châteaux de demeurer cachés dans leurs décombres. Mais les clochers des villages engloutis, qui percent les laves du Vésuve, n'empêchent pas de replanter sur la surface de ces mêmes laves d'autres églises et d'autres hameaux. Parmi les abeilles qui composaient leur ruche était la marquise de Custine, héritière des longs cheveux de Marguerite de Provence, femme de Saint-Louis dont elle avait du sang. J'assistais à sa prise de possession de Fervacques et j'eus l'honneur de coucher dans le lit du Béarnais, de même que dans le lit de la reine Christine à Combourg. Ce n'était pas une petite affaire que ce voyage. Il fallait embarquer dans la voiture Astolphe de Custine enfant, M. Berthéchet, le gouverneur, une vieille bonne alsacienne ne parlant qu'allemand, Jenny, la femme de chambre, et Trim, chien fameux, qui mangeait les provisions de la route. N'aurait-on pas pu croire que cette colonie se rendait à Fervaques pour jamais? Et cependant, le château n'était pas achevé de meubler que le signal du délogement fut donné. J'ai vu celle qui affronta l'échafaud d'un si grand courage, je l'ai vue, plus blanche qu'une parque, vêtue de noir, la taille amincie par la mort, la tête ornée de sa seule chevelure de soie. Je l'ai vue me sourire de ses lèvres pâles et de ses belles dents, lorsqu'elle quittait Sécheron, près Genève, pour expirer à Bex, à l'entrée du Valais. J'ai entendu son cercueil passer la nuit dans les rues solitaires de Lausanne, pour aller prendre sa place éternelle à Fervaques. Elle se hâtait de se cacher dans une terre qu'elle n'avait possédée qu'un moment, comme sa vie. J'avais lu, sur le coin d'une cheminée du château, ces méchantes rimes attribuées à l'amant de Gabriel. La dame de Fervaques mérite de vives attaques. Le soldat roi en avait dit autant à bien d'autres. Déclaration passagère des hommes, vite effacée et descendue de beauté en beauté jusqu'à Madame de Custine. Fervaques a été vendue. Je rencontrai encore la duchesse de Châtillon, laquelle, pendant mon absence des 100 jours, décora ma vallée d'Aulnay. Madame Lindsay, que je n'avais cessé de voir, me fit connaître Julie Talma. Madame de Clermont-Tonnerre m'attira chez elle. Nous avions une grand-mère commune, et elle voulait bien m'appeler son cousin. Veuve du comte de Clermont-Tonnerre, elle se remaria depuis au marquis de Talaru. Elle avait en prison converti M. de la Harpe. Ce fut par elle que je connus le peintre Neveu, enrôlé au nombre de ses cavaliers servants. Neveu me mit un moment en rapport avec Saint-Martin. M. de Saint-Martin avait cru trouver dans Atala certains argots dont je ne me doutais pas, et qui lui prouvaient une affinité de doctrines avec moi. Neveu, afin de lier deux frères, nous donna à dîner dans une chambre haute qu'il habitait dans les communs du palais Bourbon. J'arrivai au rendez-vous à 6 heures. Le philosophe du ciel était déjà à son poste. À 7 heures, un valet discret posa un potage sur la table, se retira et ferma la porte. Nous nous assîmes et nous commençâmes à manger en silence. Monsieur de Saint-Martin, qui d'ailleurs avait de très belles façons, ne prononçait que de courtes paroles d'oracle. Neveu répondait par des exclamations, avec des attitudes et des grimaces de peintre. Je ne disais mot. Au bout d'une demi-heure, le nécromant rentra, enleva la soupe et mit un autre plat sur la table. Les mets se succédèrent ainsi, un à un, et à de longues distances. Monsieur de Saint-Martin, s'échauffant peu à peu, se mit à parler en façon d'archange. Plus il parlait, plus son langage devenait ténébreux. Neveu m'avait insinué, en me serrant la main, que nous verrions des choses extraordinaires, que nous entendrions des bruits. Depuis 6 mortelles heures, j'écoutais et je ne découvrais rien. À minuit, l'homme des visions se lève tout à coup. Je crus que l'esprit des ténèbres ou l'esprit divin descendait, que les sonnettes allaient faire retentir les mystérieux corridors. Mais M. de Saint-Martin déclara qu'il était épuisé et que nous reprendrions la conversation une autre fois. Il mit son chapeau et s'en alla. Malheureusement pour lui, il fut arrêté à la porte et forcé de rentrer par une visite inattendue. Néanmoins, il ne tarda pas à disparaître. Je ne l'ai jamais revu. Il courut mourir dans le jardin de M. Lenoir Larache, mon voisin d'Aulnay. Je suis un sujet rebelle pour le Swedenborgisme. L'abbé Furia, à un dîner chez Mme de Custine, se vanta de tuer un serin en le magnétisant. Le serin fut le plus fort, et l'abbé, hors de lui, fut obligé de quitter la partie, de peur d'être tué par le serin. Chrétien, ma seule présence avait rendu le trépied impuissant. Une autre fois, le célèbre Gall, toujours chez Madame de Custine, dîna près de moi sans me connaître, se trompa sur mon angle facial, me prit pour une grenouille et voulut, quand il sut qui j'étais, raccommoder sa science d'une manière dont j'étais honteux pour lui. La forme de la tête peut aider à distinguer le sexe dans les individus, à indiquer ce qui appartient à la bête, aux passions animales. Quant aux facultés intellectuelles, la phrénologie en ignorera toujours. Si l'on pouvait rassembler les crânes divers des grands hommes morts depuis le commencement du monde, et qu'on les mît sous les yeux des phrénologistes, sans leur dire à qui ils ont appartenu, ils n'enverraient pas un cerveau à son adresse. L'examen des bosses produirait les méprises les plus comiques. Il me prend un remords. J'ai parlé de M. de Saint-Martin avec un peu de moquerie, je m'en repens. Cette moquerie que je repousse continuellement et qui me revient sans cesse me met en souffrance, car je hais l'esprit satirique comme étant l'esprit le plus petit, le plus commun et le plus facile de tous. Bien entendu que je ne fais pas ici le procès à la haute comédie. M. de Saint-Martin était, en dernier résultat, un homme d'un grand mérite, d'un caractère noble et indépendant. Quand ses idées étaient explicables, elles étaient élevées et d'une nature supérieure. Ne devrais-je pas le sacrifice des deux pages précédentes à la généreuse et beaucoup trop flatteuse déclaration de l'auteur du « Portrait de M. de Saint-Martin » fait par lui-même ? Je ne balancerai pas à les effacer si ce que je dis pouvait nuire le moins du monde à la renommée grave de M. de Saint-Martin et à l'estime qui s'attachera toujours à sa mémoire. Je vois du reste avec plaisir que mes souvenirs ne m'avaient pas trompé. M. de Saint-Martin n'a pas pu être tout à fait frappé de la même manière que moi dans le dîner dont je parle. Mais on voit que je n'avais pas inventé la scène et que le récit de M. de Saint-Martin ressemble au mien, par le fond. « Le 27 janvier 1803, dit-il, j'ai eu une entrevue avec M. de Chateaubriand dans un dîner arrangé pour cela chez M. Neveu à l'école polytechnique. J'aurais beaucoup gagné à le connaître plus tôt. C'est le seul homme de lettres honnête avec qui je me sois trouvé en présence depuis que j'existe, et encore n'ai-je joui de sa conversation que pendant le repas. Car aussitôt après, parut une visite qui le rendit muet pour le reste de la séance, et je ne sais quand l'occasion pourra renaître, parce que le roi de ce monde a grand soin de mettre des bâtons dans les roues de ma carriole. Au reste, de qui ai-je besoin, excepté de Dieu ? Monsieur de Saint-Martin vaut mille fois mieux que moi. La dignité de sa dernière phrase écrase du poids d'une nature humaine sérieuse ma raillerie inoffensive. J'avais aperçu M. de Saint-Lambert et Mme d'Oudetot au Marais, représentant l'un et l'autre les opinions et les libertés d'autrefois soigneusement empaillées et conservées. C'était le XVIIIe siècle expiré et marié à sa manière. Il suffit de tenir bon dans la vie pour que les illégitimités deviennent des légitimités. On se sent une estime infinie pour l'immoralité parce qu'elle n'a pas cessé de l'être, et que le temps l'a décorée de rides. À la vérité, deux vertueux époux, qui ne sont pas époux, et qui restent unis par respect humain, souffrent un peu de leur vénérable état. Ils s'ennuient et se détestent cordialement dans toute la mauvaise humeur de l'âge. C'est la justice de Dieu. Malheur à qui le ciel accorde de longs jours! Il devenait difficile de comprendre quelques pages des Confessions quand on avait vu l'objet des transports de Rousseau. Madame d'Oudetot avait-elle conservé les lettres que Jean-Jacques lui écrivait et qu'il dit avoir été plus brûlantes que celles de la Nouvelle-Héloïse ? On croit qu'elle en avait fait le sacrifice à Saint-Lambert. À près de 80 ans, Madame d'Oudetot s'écriait encore dans des vers agréables « Et l'autour me console, rien ne pourra me consoler de lui. » Elle ne se couchait point qu'elle n'eût frappé trois fois à terre avec sa pantoufle en disant à feu l'auteur des Saisons « Bonsoir, mon ami. » C'était là à quoi se réduisait, en 1803, la philosophie du XVIIIe siècle. La société de Madame d'Oudetot, de Diderot, de Saint-Lambert, de Rousseau, de Grimm, de Madame d'Épinay, m'a rendu la vallée de Montmorency insupportable. Et quoique, sous le rapport des faits, je sois bien aise qu'une relique des temps voltairiens soit tombée sous mes yeux, je ne regrette point ces temps. J'ai vu dernièrement à Sannois la maison qu'habitait Madame d'Houdetot. Ce n'est plus qu'une coque vide, réduite aux quatre murailles. Un âtre abandonné intéresse toujours. Mais que disent des foyers où ne s'est assise ni la beauté, ni la mère de famille, ni la religion, et dont les cendres, si elles n'étaient dispersées, reporteraient seulement le souvenir vers des jours qui n'ont su que détruire. Chapitre 2. Paris 1838. Voyage dans le Midi de la France 1802. Une contrefaçon du génie du christianisme à Avignon m'appela au mois d'octobre 1802 dans le Midi de la France. Je ne connaissais que ma pauvre Bretagne et les provinces du Nord traversées par moi en quittant mon pays. J'allais voir le soleil de Provence, ce ciel qui devait me donner un avant-goût de l'Italie et de la Grèce, vers lesquels mon instinct et la muse me poussaient. J'étais dans une disposition heureuse. Ma réputation me rendait la vie légère. Il y a beaucoup de songes dans le premier enivrement de la renommée, et les yeux se remplissent d'abord avec délices de la lumière qui se lève. Mais que cette lumière s'éteigne, elle vous laisse dans l'obscurité. Si elle est dure, l'habitude de la voir vous y rend bientôt insensible. Lyon me fit un extrême plaisir. Je retrouvai ces ouvrages des Romains que je n'avais point aperçus depuis le jour où je lisais dans l'amphithéâtre de Trèves quelques feuilles d'Atala tirées de mon havresac. Sur la Saône passaient d'une rive à l'autre des barques entoilées, portant la nuit une lumière. Des femmes les conduisaient. Une nautonnière de 18 ans, qui me prit à son bord, raccommodait à chaque coup d'aviron un bouquet de fleurs mal attaché à son chapeau. Je fus réveillé le matin par le son des cloches. Les couvents suspendus aux coteaux semblaient avoir recouvré leur solitaire. Le fils de M. Ballanche, propriétaire, après M. Mignoret, du génie du christianisme, était mon hôte. Il est devenu mon ami. Qui ne connaît aujourd'hui le philosophe chrétien, dont les écrits brillent de cette clarté paisible sur laquelle on se plaît à attacher les regards, comme sur le rayon d'un astre ami dans le ciel. Le 27 octobre, le bateau de poste qui me conduisait à Avignon fut obligé de s'arrêter à Tain à cause d'une tempête. Je me croyais en Amérique. Le Rhône me représentait mes grandes rivières sauvages. J'étais niché dans une petite auberge au bord des flots. Un conscrit se tenait debout dans un coin du foyer. Il avait le sac sur le dos et allait rejoindre l'armée d'Italie. J'écrivais sur le soufflet de la cheminée, en face de l'hôtelière, assise en silence devant moi, et qui, par égard pour le voyageur, empêchait le chien et le chat de faire du bruit. Ce que j'écrivais était un article déjà presque fait en descendant le Rhône et relatif à la législation primitive de M. de Bonald. Je prévoyais ce qui est arrivé depuis. La littérature française, disais-je, va changer de face. Avec la Révolution vont naître d'autres pensées, d'autres vues des choses et des hommes. Il est aisé de prévoir que les écrivains se diviseront. Les uns s'efforceront de sortir des anciennes routes, les autres tâcheront de suivre les antiques modèles, mais toutefois en les présentant sous un jour nouveau. Il est assez probable que les derniers finiront par l'emporter sur leurs adversaires, parce qu'en s'appuyant sur les grandes traditions et sur les grands hommes, ils auront des guides plus sûrs et des documents plus féconds. Les lignes qui terminent ma critique voyageuse sont de l'histoire. Mon esprit marchait dès lors avec mon siècle. L'auteur de cet article, disais-je, ne se peut refuser à une image qui lui est fournie par la position dans laquelle il se trouve. Au moment même où il écrit ses derniers mots, il descend un des plus grands fleuves de France. Sur deux montagnes opposées s'élèvent deux tours en ruine. Au haut de ces tours sont attachées de petites cloches que les montagnards sonnent à notre passage. Ce fleuve, ces montagnes, ces sons, ces monuments gothiques amusent un moment les yeux des spectateurs. Mais personne ne s'arrête pour aller où la cloche l'invite. Ainsi les hommes qui prêchent aujourd'hui morale et religion donnent en vain le signal du haut de leurs ruines à ceux que le torrent du siècle entraîne. Le voyageur s'étonne de la grandeur des débris, de la douceur des bruits qui en sortent, de la majesté des souvenirs qui s'en élèvent. Mais il n'interrompt point sa course, et au premier détour du fleuve, tout est oublié. Arrivé à Avignon, la veille de la Toussaint, un enfant portant des livres m'en offrit. J'achetai du premier coup 3 éditions différentes et contrefaites d'un petit roman nommé Atala. En allant de libraire en libraire, je déterrai le contrefacteur à qui j'étais inconnu. Il me vendit les 4 volumes du Génie du christianisme au prix raisonnable de 9 francs l'exemplaire et me fit un grand éloge de l'ouvrage et de l'auteur. Il habitait un bel hôtel entre cour et jardin. Je crus avoir trouvé la pie au nid. Au bout de 24 heures, je m'ennuyais de suivre la fortune et je m'arrangeais presque pour rien avec le voleur. Je vis Madame de Janson, petite femme sèche, blanche et résolue, qui, dans sa propriété, se battait avec le Rhône, échangeait des coups de fusil avec les riverains et se défendait contre les années. Avignon me rappela mon compatriote. Du Guesclin valait bien Bonaparte, puisqu'il arracha la France à la conquête. Arrivé auprès de la ville des papes avec les aventuriers que sa gloire entraînait en Espagne, il dit au prévôt, envoyé au-devant de lui par le pontife, « Frère, ne me scellez pas. D'où vient ce trésor ? La prince le pape en son trésor ?» Et il lui répondit que non, et que le commun d'Avignon la voit payer chacun sa portion. « Lors, dit Bertrand, prévôt, je vous promets que nous n'en aurons denier en notre vie. » Et voulons que cet argent cueilli soit rendu à ceux qui l'ont payé, et dites bien au pape qu'il le leur fasse rendre, car si je savais que le contraire fût, ils m'empoiseraient, et eussent hors passé la mer, si retournerois-je par de ça. A donc fut Bertrand payé de l'argent du pape, et ses gens de rechef absous, et la dite absolution primière de rechef confirmée. Les voyages transalpins commençaient autrefois par Avignon. C'était l'entrée de l'Italie. Les géographies disent « Le Rhône est au roi, mais la ville d'Avignon est arrosée par une branche de la rivière de la Sorgue, qui est au pape. » Le pape est-il bien sûr de conserver longtemps la propriété du Tibre ? On visitait à Avignon le couvent des Célestins. Le bon roi René, qui diminuait les impôts quand la tramontane soufflait, avait peint dans une des salles du couvent des Célestins un squelette. C'était celui d'une femme d'une grande beauté qu'il avait aimée. Dans l'église des Cordeliers se trouvait le sépulcre de Madonna Laura. François Ier commanda de l'ouvrir et salua les cendres immortalisées. Le vainqueur de Marignan laissa à la nouvelle tombe qu'il fit élever cette épitaphe. « En petit lieu compris, vous pouvez voir, ce qui comprend beaucoup par renommée. Ô gentille âme, étant tant estimée, qui te pourra louer qu'en se taisant ? Car la parole est toujours réprimée quand le sujet surmonte le disant. On aura beau faire, le père des lettres, l'ami de Benvenuto Cellini, de Léonard de Vinci, du Primatis, le roi à qui nous devons la Diane, sœur de l'Apollon du Belvédère et la sainte famille de Raphaël. Le chantre de l'or, l'admirateur de Pétrarque, a reçu des beaux-arts reconnaissant une vie qui ne périra point. J'allais à Vaucluse cueillir au bord de la fontaine des bruyères parfumées et la première olive que portait un jeune olivier. Chiara Fontana, in quel medesmo bosco, sorgea d'un sasso, ed acque fresche e dolci, spargea suavemente mormorando, al bel seggio riposto, ambroso e fosco, né pastori abresavan, ni bifolci, ma ninfe e muzze, a quel tenor cantando. Cette claire fontaine, dans ce même bocage, sort d'un rocher. Elle répand, fraîches et douces, ses ondes qui suavement murmurent. À ce beau lit de repos, ni les pasteurs ni les troupeaux ne s'empressent, mais la nymphe et la muse y vont chantant. Pétrarque a raconté comment il rencontra cette vallée. « Je manquerai, dit-il, d'un lieu caché où je pusse me retirer, comme dans un port, quand je trouvai une petite vallée fermée, Vaucluse, bien solitaire, d'où naît la source de la Sorgue, reine de toutes les sources. Je m'y établis. C'est là que j'ai composé mes poésies en langue vulgaire, vers où j'ai peint les chagrins de ma jeunesse. » C'est aussi de Vaucluse qu'il entendait, comme on l'entendait encore lorsque j'y passais, le bruit des armes retentissant en Italie. Il s'écriait « Italia mia, o diluvio raccolto, dicche deserti strani, per inondar i nostri dolci campi. Non è questo del terreno ch'io toccai pria, non è questo mio nido, ove nutrido fui si dolcemente, no è questa la patria, in ch'io mi fido, madre benigna e pia, qui copre l'uno e l'altro mio parente. Mon Italie, ô déluge rassemblé des déserts étrangers pour inonder nos doux champs, n'est-ce pas là le sol que je touchais d'abord? N'est-ce pas là le nid où je fus si doucement nourri? N'est-ce pas là la patrie en qui je me confie, mère bénigne et pieuse qui couvre l'un et l'autre de mes parents? Plus tard, l'amant de l'or invite Urbain V à se transporter à Rome. « Que répondrez-vous à Saint-Pierre » s'écrie-t-il éloquemment, « quand il vous dira « Que se passe-t-il à Rome ? Dans quel état est mon temple, mon tombeau, mon peuple ?» Vous ne répondez rien ? D'où venez-vous ? Avez-vous habité les bords du Rhône ? Vous y naquîtes, dites-vous. Et moi, n'étais-je pas né en Galilée ? Siècle fécond, jeune, sensible, dont l'admiration remuait les entrailles. Siècle qui obéissait à la lyre d'un grand poète comme à la loi d'un législateur. C'est à Pétrarque que nous devons le retour du souverain pontife au Vatican. C'est sa voix qui a fait naître Raphaël et sortir de terre le dôme de Michel-Ange. De retour à Avignon, je cherchais le palais des papes et l'on me montra la glacière. La Révolution s'en est prise au lieu célèbre. Les souvenirs du passé sont obligés de pousser au travers et de reverdir sur des ossements. Hélas, les gémissements des victimes meurent vite après elles. Ils arrivent à peine à quelque écho qui les fait survivre un moment, quand déjà la voix dont ils s'exhalaient est éteinte. Mais tandis que le cri des douleurs expirait au bord du Rhône, on entendait dans le lointain les sons du luth de Pétrarque. Une canzone, petit poème, solitaire, échappé de la tombe, continuez à charmer Vaucluse d'une immortelle mélancolie et de chagrin d'amour d'autrefois. Alain Chartier est venu de Bayeux se faire enterrer à Avignon, dans l'église de Saint-Antoine. Il avait écrit « La belle dame sans merci » et « Le baiser de Marguerite d'Écosse » l'a fait vivre. D'Avignon, je me rendis à Marseille. Que peut avoir à désirer une ville à qui Cicéron adresse ses paroles, dont le tour oratoire a été imité par Bossuet. « Je ne t'oublierai pas, Marseille, dont la vertu est à un degré si éminent que la plupart des nations te doivent céder et que la Grèce même ne doit pas se comparer à toi. » Pro El Flacco. Tacite, dans la vie d'Agricola, loue aussi Marseille comme mêlant l'urbanité grecque à l'économie des provinces latines. Fille de l'Hélénie, institutrice de la Gaule, célébrée par Cicéron, emportée par César, n'est-ce pas réunir assez de gloire? Je me hâtais de monter à Notre-Dame de la Garde pour admirer la mer que bordent avec leurs ruines les côtes riantes de tous les pays fameux de l'Antiquité. La mer, qui ne marche point, est la source de la mythologie, comme l'océan qui se lève deux fois le jour et l'abîme auquel a dit Jéhovah « Tu n'iras pas plus loin ». Cette année même, 1838, j'ai remonté sur cette cime. j'ai revu cette mer qui m'est à présent si connue, et au bout de laquelle s'élevèrent la croix et la tombe victorieuse. Le mistral soufflait. Je suis entré dans le fort bâti par François Ier, où ne veillait plus un vétéran de l'armée d'Égypte, mais où se tenait un conscrit destiné pour Alger et perdu sous des voûtes obscures. Le silence régnait dans la chapelle restaurée, tandis que le vent mugissait au dehors. Le cantique des matelots de la Bretagne à Notre-Dame de Bon Secours me revenait en pensée. Vous savez quand et comment je vous ai déjà cité cette complainte de mes premiers jours de l'océan. Je mets ma confiance, Vierge, en votre secours, etc. Que d'événements il avait fallu pour me ramener au pied de l'étoile des mers, à laquelle j'avais été voué dans mon enfance. Lorsque je contemplais ces ex-voto, ces peintures de naufrages suspendues autour de moi, je croyais lire l'histoire de mes jours. Virgile place sous les portiques de Carthage un Troyen ému à la vue d'un tableau représentant l'incendie de Troie, et le génie du chantre d'Hamlet a profité de l'âme du chantre de Didon. Au bas de ce rocher, couvert autrefois d'une forêt chantée par Lucain, je n'ai point reconnu Marseille. Dans ses rues droites, longues et larges, je ne pouvais plus m'égarer. Le port était encombré de vaisseaux. J'y aurais à peine trouvé, il y a 36 ans, une nave conduite par un descendant de Pythéas pour me transporter en Chypre comme Joinville. Au rebours des hommes, le temps rajeunit les villes. J'aimais mieux ma vieille Marseille, avec ses souvenirs des Bérangers, du duc d'Anjou, du roi René, de Guise et d'Épernon, avec les monuments de Louis XIV et les vertus de Belzunce. Les rides me plaisaient sur son front. Peut-être qu'en regrettant les années qu'elle a perdues, je ne fais que pleurer celles que j'ai trouvées. Marseille m'a reçue gracieusement, il est vrai, mais l'émule d'Athènes est devenue trop jeune pour moi. Si les mémoires d'Alfieri eussent été publiées en 1803, je n'aurais pas quitté Marseille sans visiter le rocher des bains du poète. Cet homme rude est arrivé une fois au charme de la rêverie et de l'expression. « Après le spectacle, dit-il, un de mes amusements à Marseille était de me baigner presque tous les soirs dans la mer. J'avais trouvé un petit endroit fort agréable sur une langue de terre placée à droite hors du port, où, en m'asseyant sur le sable, le dos appuyé contre un petit rocher qui empêchait qu'on ne pût me voir du côté de la terre, je n'avais plus devant moi que le ciel et la mer. Entre ces deux immensités, qu'embellissaient les rayons d'un soleil couchant, je passais, en rêvant, des heures délicieuses. Et là, je serais devenu poète, si j'avais su écrire dans une langue quelconque. Je revins par le Languedoc et la Gascogne. À Nîmes, les arènes et la maison carrée n'étaient pas encore dégagées. Cette année 1838, je les ai vues dans leur exhumation. Je suis aussi allé chercher Jean Reboul. Je me défiais un peu de ces ouvriers poètes qui ne sont ordinairement ni poètes ni ouvriers. Réparation à M. Reboul. Je l'ai trouvé dans sa boulangerie. Je me suis adressé à lui sans savoir à qui je parlais, ne le distinguant pas de ses compagnons de Cérès. Il a pris mon nom et m'a dit qu'il allait voir si la personne que je demandais était chez elle. Il est revenu bientôt après et s'est fait connaître. Il m'a mené dans son magasin. Nous avons circulé dans un labyrinthe de sacs de farine et nous sommes grimpés par une espèce d'échelle dans un petit réduit, comme dans la chambre haute d'un moulin à vent. Là, nous nous sommes assis et nous avons causé. J'étais heureux comme dans mon grenier à Londres et plus heureux que dans mon fauteuil de ministre à Paris. M. Reboul a tiré d'une commode un manuscrit et m'a lu des vers énergiques d'un poème qu'il compose sur le dernier jour. Je l'ai félicité de sa religion et de son talent. Je me rappelais ces belles strophes à un exilé. Quelque chose de grand se couve dans le monde. Il faut, ô jeune roi, que ton âme y réponde. Oh, ce n'est pas pour rien que, calmant notre deuil, le ciel, par un mourant, fit révéler ta vie. que quelque temps après, de ses enfants suivis, aux yeux de l'univers, la nation ravie, t'éleva dans ses bras, sur le bord d'un cercueil. Il fallut me séparer de mon hôte, non sans souhaiter au poète les jardins d'Horace. J'aurais mieux aimé qu'il rêvât, au bord de la cascade de Tibur, que de le voir recueillir le froment broyé par la roue au-dessous de cette cascade. Il est vrai que Sophocle était peut-être un forgeron à Athènes, et que Plaute à Rome, annonçait Reboul à Nîmes. Entre Nîmes et Montpellier, je passais sur ma gauche Aigues-Mortes, que j'ai visitée en 1838. Cette ville est encore tout entière avec ses tours et son enceinte. Elle ressemble à un vaisseau de haut bord échoué sur le sable où l'ont laissé Saint-Louis, le temps et la mer. Le Saint-Roi avait donné des usages et statuts à la ville d'Aigues-Mortes. Il veut que la prison soit telle, qu'elle serve non à l'extermination de la personne, mais à sa garde, que nulle information ne soit faite pour des paroles injurieuses, que l'adultère même ne soit recherché qu'en certains cas, et que le violateur d'une vierge, volante ve nolante, ne perde ni la vie ni aucun de ses membres, sed alio modo puniatur. À Montpellier, je revis la mère, à qui j'aurais volontiers écrit comme le roi très chrétien à la Confédération suisse, ma fidèle alliée et ma grande amie. Scaliger aurait voulu faire de Montpellier le nid de sa vieillesse. Elle a reçu son nom de deux vierges saintes, Mons Puellarum, de là la beauté de ses femmes. Montpellier, en tombant devant le cardinal de Richelieu, vit mourir la constitution aristocratique de la France. De Montpellier à Narbonne, j'eus, chemin faisant, un retour à mon naturel, une attaque de mes songeries. J'aurais oublié cette attaque si, comme certains malades imaginaires, je n'avais enregistré le jour de ma crise sur un tout petit bulletin, seule note de ce temps retrouvé pour aide à ma mémoire. Ce fut cette fois un espace aride, couvert de digital, qui me fit oublier le monde. Mon regard glissait sur cette mer de tiges empourprées et n'était arrêté au loin que par la chaîne bleuâtre du Cantal. Dans la nature, hormis le ciel, l'océan et le soleil, ce ne sont pas les immenses objets dont je suis inspiré. Ils me donnent seulement une sensation de grandeur qui jette ma petitesse éperdue et non consolée aux pieds de Dieu. Mais une fleur que je cueille, un courant d'eau qui se dérobe parmi des joncs, un oiseau qui va s'envolant et se reposant devant moi, m'entraîne à toutes sortes de rêves. Ne vaut-il pas mieux s'attendrir sans savoir pourquoi que de chercher dans la vie des intérêts émoussés, refroidis par leur répétition et leur multitude? Tout est usé aujourd'hui, même le malheur. À Narbonne, je rencontrai le canal des deux mers. Corneille, chantant cet ouvrage, ajoute sa grandeur à celle de Louis XIV. La Garonne et le Tarn, dans leurs grottes profondes, soupiraient dès longtemps pour marier leurs ondes, et faire ainsi couler, par un heureux penchant, les trésors de l'aurore aux rives du couchant. Mais à des vœux si doux, à des flammes si belles, la nature, attachée à des lois éternelles, pour obstacle invincible opposée fièrement, des monts et des rochers et l'affreux enchaînement. France, ton grand roi parle, et ses rochers se fendent. La terre ouvre son sein, les plus hauts monts descendent. Tout cède. À Toulouse, j'aperçus du pont de la Garonne la ligne des Pyrénées. Je la devais traverser 4 ans plus tard. Les horizons se succèdent comme nos jours. On me proposa de me montrer dans un caveau le corps desséché de la belle Paule. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Montmorency avait été décapité dans la cour de l'hôtel de ville. Cette tête coupée était donc bien importante, puisqu'on en parle encore après tant d'autres têtes abattues. Je ne sais si dans l'histoire des procès criminels il existe une déposition de témoins qui ait fait mieux reconnaître l'identité d'un homme. « Le feu et la fumée dont il était couvert, dit Guiteau, m'empêchèrent d'abord de le reconnoître. Mais voyant un homme qui, après avoir rompu 6 de nos rangs, tuait encore des soldats au 7e, je jugeai que ce ne pouvait être que M. de Montmorency. Je le sus certainement lorsque je le vis renversé à terre sous son cheval mort. L'église abandonnée de Saint-Cernin me frappa par son architecture. Cette église est liée à l'histoire des Albigeois, que le poème, si bien traduit par M. Fauriel, fait revivre. Le vaillant jeune comte, la lumière et l'héritier de son père, la croix et le fer, entrent ensemble par l'une des portes. Ni en chambre, ni en étage, il ne reste pas une jeune fille. Les habitants de sa ville, grands et petits, regardent tous le comte comme fleur de rosier. C'est de l'époque de Simon de Montfort que date la perte de la langue d'oc. Simon, se voyant seigneur de tant de terres, les départit entre les gentilshommes, tant français qu'autres, atque loci leges, dedimus, disent les 8 archevêques et évêques signataires. J'aurais bien voulu avoir le temps de m'enquérir à Toulouse d'une de mes grandes admirations, de Cujas, écrivant, couché à plat ventre, ses livres épandus autour de lui. Je ne sais si l'on a conservé le souvenir de Suzanne, sa fille, mariée 2 fois. La constance n'amusait pas beaucoup Suzanne, elle en faisait peu de cas, mais elle nourrit l'un de ses maris des infidélités dont mourut l'autre. Cujas fut protégé par la fille de François Ier, Pibrac par la fille de Henri II, deux Marguerites de ce sang des Valois, pur sang des muses. Pibrac est célèbre par ses quatrains, traduits en persan. J'étais logé peut-être dans l'hôtel du président, son père. Ce bon monsieur de Pibrac, dit Montaigne, avoit un esprit si gentil, les opinions si saines, les mœurs si douces. Son âme est toi si disproportionnée à notre corruption et à nos tempêtes. Et il a fait l'apologie de la Saint-Barthélemy. Je courais sans pouvoir m'arrêter. Le sort me renvoyait à 1838 pour admirer en détail la cité de Raymond de Saint-Gilles et pour parler des nouvelles connaissances que j'y ai faites. Monsieur de Lavergne, homme de talent, d'esprit et de raison, Mademoiselle Honorine Gasque, ma Librand future, celle-ci, en ma qualité nouvelle de serviteur de Clémence Isor, me rappelait ces vers que Chapelle et Bachaumont écrivaient dans l'île d'Ambijou, près de Toulouse. Hélas, que l'on se roit heureux, dans ce beau lieu digne d'envie, si toujours aimé de Sylvie, on pouvait, toujours amoureux, avec elle, passer sa vie. Puisse, mademoiselle Honorine, être en garde contre sa belle voix. Les talents sont de l'or de Toulouse, ils portent malheur. Bordeaux était à peine débarrassé de ses échafauds et de ses lâches girondins. Toutes les villes que je voyais avaient l'air de belles femmes relevées d'une violente maladie et qui commencent à peine à respirer. À Bordeaux, Louis XIV avait jadis fait abattre le temple de la tutelle afin de bâtir le château Trompette. Spon et les amis de l'Antiquité gémirent. Pourquoi démolit-on ces colonnes des dieux? Ouvrage des Césars, monument tutélaire. On trouvait à peine quelques restes des arènes. Si l'on donnait un témoignage de regret à tout ce qui tombe, il faudrait trop pleurer. Je m'embarquai pour Blaye. Je vis ce château alors ignoré, auquel en 1833 j'adressai ces paroles. Captive de Blaye, je me désole de ne pouvoir rien pour vos présentes destinées. Je m'acheminai vers Rochefort et je me rendis à Nantes, par la Vendée. Ce pays portait, comme un vieux guerrier, les mutilations et les cicatrices de sa valeur. Des ossements blanchis par le temps et des ruines noircies par les flammes frappaient les regards. Lorsque les Vendéens étaient prêts d'attaquer l'ennemi, ils s'agenouillaient et recevaient la bénédiction d'un prêtre. La prière prononcée sous les armes n'était point réputée faiblesse, car le Vendéen qui élevait son épée vers le ciel demandait la victoire et non la vie. La diligence dans laquelle je me trouvais enterré était remplie de voyageurs qui racontaient les viols et les meurtres dont ils avaient glorifié leur vie dans les guerres vendéennes. Le cœur me palpita lorsqu'ayant traversé la Loire à Nantes, j'entrai en Bretagne. Je passai le long des murs de ce collège de Rennes qui vit les dernières années de mon enfance. Je ne pus rester que 24 heures auprès de ma femme et de mes sœurs, et je regagnai Paris.